Bonjour à tous et merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Cantner.
RFI midi, 2 heures ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et avec nos invités. À la une, ce jeudi 14 novembre, les nouvelles nominations dans l'équipe Trump avec deux personnalités qui inquiètent l'Ukraine. Au poste de secrétaire d'État et à la tête des renseignements qui seront dirigés, si ce choix est confirmé, par une figure pro-russe. Dans ce contexte, les Européens s'organisent pour garantir un soutien à l'Ukraine avant le retour au pouvoir de Donald Trump et avant peut-être des changements de majorité dans des pays phares comme l'Allemagne. On s'engage beaucoup à gauche en ce moment chez les écologistes, de peur de voir l'extrême droite de l'AFD progresser encore dans le pays lors des élections anticipées, et cette fois au niveau fédéral.
J'ai été assesseur lors des élections communales, j'ai vu les électeurs toute la journée, ils semblaient tout à fait normaux. Et puis nous avons ouvert les bulletins de vote. Et là, je vois des bulletins AFD, 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 et ça m'a effrayé. Dans ma bulle, je ne connais personne qui sympathise avec l'extrême droite. J'ai donc commencé à me dire qu'il fallait agir plutôt que de parler de ce qu'il faudrait faire. Je suis donc ici pour voir ce que je peux faire.
Reportage à écouter dans quelques minutes. Au sommaire également aujourd'hui, ce match sous haute sécurité à Paris ce soir, France-Israël. C'est du football et les organisateurs, les joueurs ainsi que l'entraîneur des Bleus, Didier Deschamps, espèrent que cela restera uniquement du football.
Évidemment, l'ensemble du groupe France, il n'y a personne qui peut être insensible au contexte qui est lourd et pesant. Je ne sais pas en parler aux joueurs, mais évidemment, parce que ça amène des conséquences par rapport au nombre de présences des supporters et tout ce qui va avec.
Beaucoup moins de spectateurs ce soir que les capacités du Stade de France. On en parle dans le journal dans une demi-heure et juste après avec le service des sports. Les nouvelles violences en Haïti viennent empirer une situation déjà catastrophique et même les humanitaires ne sont pas épargnés. Une ambulance de Médecins sans frontières a été attaquée au début de la semaine et l'organisation le déplore.
On est tous sous le choc, c'est vraiment la première fois qu'on a du personnel qui se fait agresser, menacer verbalement, violemment. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce que, en tant qu'MSF, on peut continuer à pérenniser nos opérations en toute sécurité. L'arrêt des MSF en Haïti serait une catastrophe.
L'entretien avec le chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti tout à l'heure, juste après le journal de 13h, temps universel. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. La France utilise tous les moyens pour bloquer le traité entre l'Union européenne et le Mercosur. C'est le ministre français des Finances qui le dit ce matin. Paris martèle son opposition au texte en discussion depuis 15 ans avec les pays du Mercosur, c'est-à-dire avec 5 pays d'Amérique latine. Après un accord politique il y a 5 ans, l'adoption de ce texte de libre-échange commerciaux se concrétise. L'Union européenne voudrait le signer avant la fin de l'année, pas la France donc. Et elle l'avait de nouveau fait savoir hier lors d'une visite du Premier ministre à Bruxelles. Pierre Benazet.
À quelques jours de l'ouverture du G20, les opposants se mobilisent contre cet accord de libre-échange, considéré par certains comme contraire aux normes sociales et environnementales de l'Europe. Le Premier ministre français est venu répéter à Bruxelles l'opposition de la France. Michel Barnier.
Il ne s'agit pas de mettre des rustines ou de compenser, il s'agit de ne pas accepter des mesures qui vont détruire des filières entières de l'économie européenne, notamment de l'agriculture et de l'élevage. Vous ne pouvez pas expliquer que l'Union européenne détruise des pans entiers de l'économie de plusieurs pays. C'est pas acceptable, c'est pas justifiable.
À quelques encablures de là, les agriculteurs manifestaient comme promis à l'appel entre autres de la Confédération Paysanne, Enrico Somalia, de la Fédération Européenne des Syndicats de l'Alimentation et de l'Agriculture.
C'est une concurrence déloyale et en plus de ça, c'est un accord qui n'a aucun sens aussi pour les pays du Mercosur parce que ces aspects sociaux et ces aspects environnementaux ne sont pas considérés contraignants dans l'accord. Ce qui va peut-être augmenter, c'est l'exportation de certains produits qui vont alimenter la destruction de la forêt Amazonie.
L'espoir de cette levée de bouclier est que la signature des accords UE-Mercosur disparaisse du programme des Européens.
Pierre Benazet à Bruxelles. L'actualité européenne, ce sont aussi les tractations pour la composition de la future commission. Discussion houleuse, difficile et qui témoigne des tensions de plus en plus fortes au sein du Parlement européen entre d'un côté le groupe conservateur, PPE, et de l'autre les socialistes. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Au cœur de ces négociations et de ces tensions, il y a la nomination des vice-présidents, c'est-à-dire les postes les plus importants de la future commission.
Oui, les 6 vice-présidents choisis par Ursula von der Leyen. Ses vice-présidents ont passé cette semaine leur audition devant les parlementaires européens, mais ces derniers n'ont pas réussi donc à se mettre d'accord pour valider trois nominations qui continuent de poser problème. Les socialistes s'opposent en l'état à la confirmation du Hongrois Olivier Varelli à la santé et au bien-être animal et à celle de l'Italien Raffaele Vito, le premier parce qu'il a été désigné par Viktor Orban et le second parce qu'il appartient au Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. À droite, cependant, il y a un refus de céder sur ces deux nominations et en outre, le PPE, le Parti Populaire Européen, qui est le premier parti du Parlement en nombre de députés, ne veut pas lui confirmer la nomination de la socialiste espagnole Teresa Ribera. Celle-ci doit hériter pourtant d'un portefeuille très important, celui de la transition écologique, mais son audition a été perturbée par l'actualité dramatique en Espagne, celle des inondations qui ont endeuillé la région de Valence. Conséquence, la droite espagnole fait pression sur le PPE pour bloquer sa nomination en filigrane. Comme nous l'a expliqué Christine Verger de l'Institut Jacques Delors, c'est donc un conflit politique national qui vient percuter cette nomination au niveau européen.
Les deux grands partis espagnols se sont toujours haïs. Ce sont deux partis, le Parti Socialiste et le Parti Populaire, respectivement socialiste et de centre-droit, qui ont une histoire de violence radicale, si je puis dire, dans leurs relations. Et donc, pour le moment, la délégation espagnole à l'intérieur du PPE met la pression sur le PPE pour des raisons de politique intérieure espagnole. Puisque, comme vous le savez, suite aux inondations en Espagne, il y a tout un débat sur la question de savoir qui est responsable. Est-ce que c'est au niveau fédéral, national, ou est-ce que c'est au niveau de la région ?
Alors, hier soir, la présidente de la Commission européenne a tenté d'imposer un compromis, mais visiblement, Ursula von der Leyen n'y est pas parvenue.
Oui, la présidente de la Commission qui a tout intérêt à ce que les eurodéputés se mettent d'accord rapidement. Il y a un calendrier à respecter, car Ursula von der Leyen aimerait que cette nouvelle Commission puisse commencer à travailler dès le mois de décembre. Mais pour cela, il faut que les eurodéputés parviennent à un accord d'ici au 27 novembre, date prévu pour le vote en session plénière à Strasbourg d'investiture de la nouvelle commission. Si aucun accord n'est trouvé, il faudra attendre sans doute le mois de janvier pour que l'Union européenne soit dotée de cette nouvelle commission. Ce serait très compliqué de se retrouver dans cette situation, étant donné bien sûr le contexte international, sachant que l'Europe doit se préparer au plus vite à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce sont donc des tractations très importante qui se joue en ce moment même avec un autre enjeu, celui des équilibres au sein du nouveau Parlement européen, car les socialistes accusent dans ce conflit les conservateurs du PPE de vouloir flirter avec l'extrême droite, avec Giorgia Meloni ou encore avec Viktor Orban. En cas de blocage persistant, ce serait donc de très mauvais augure, à la fois pour les débuts de la nouvelle Commission européenne, mais aussi pour les travaux à venir de ce Parlement européen issu des élections de juin dernier.
Voilà donc pour ces discussions qui se poursuivent. Merci Daniel Valot. Parmi les dossiers majeurs de l'Union européenne, il y a la guerre en Ukraine, la nécessité pour les Européens, vous nous le disiez, d'anticiper potentiellement une baisse de l'aide américaine, voire un changement de ligne politique, comme le laisse penser la nomination de Tulsi Gabbard à la tête du renseignement américain. C'est une femme connue pour ses positions pro-russes et contre le conflit en Ukraine. En attendant l'entrée en fonction de cette nouvelle équipe, l'actuel secrétaire d'État américain a tenté hier de rassurer et il a promis une réponse ferme à l'implication de militaires nord-coréens dans le conflit. Franck Alexandre, on sait qu'ils sont engagés dans des combats dans la région russe de Koursk, là où des soldats ukrainiens sont présents depuis leur attaque lancée au mois d'août dernier.
La présence militaire nord-coréenne dans la guerre d'Ukraine était avérée depuis plusieurs semaines, mais selon les renseignements sud-coréens et américains, ces soldats sont désormais envoyés au feu. 11 000 combattants, estime Kiev, et ce sont plutôt des troupes d'élite que de la chair à canon, précisait Lee Tenenbaum, directeur de recherche à l'Institut français des relations internationales.
Elles sont sous le commandement général de l'état-major russe sur le théâtre. Elles sont vraisemblablement là pour participer à l'effort de reconquête sur la région de Koursk. Ce qui semble dans un premier temps, c'est qu'elles permettent à la Russie de maintenir son effort principal sur le Donbass, en lui évitant finalement d'avoir à exercer une sorte de balance de force. Elles sont vraisemblablement là aujourd'hui aussi pour être testées, pour voir ce qu'ils sont capables de produire, peut-être pour, dans un second temps, les employer sur une zone plus importante ou plus prioritaire pour la Russie.
Équipées d'uniformes russes et formées armée, à l'artillerie, aux drones et aux opérations d'infanterie. Ces soldats seraient en première ligne, assurent les services de renseignement occidentaux, y compris pour mener des opérations de nettoyage de tranchées.
Franck Alexandre.
RFI, l'Europe à midi.
C'est une sorte de campagne électorale qui a débuté hier en Allemagne avec le discours du chancelier devant la chambre basse du Parlement. Une semaine après avoir fait exploser sa coalition et par conséquent conduit le pays à des élections anticipées, Olaf Scholz a défendu son bilan.
Et c'est pourquoi je ne regretterai certainement pas d'avoir proposé des compromis tous les jours, et ce jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour commun de cette coalition gouvernementale. Il n'y a pas de démocratie sans compromis.
Pas de regret pour le chancelier Scholz. Les sondages ne sont pourtant pas vraiment encourageants pour les sociodémocrates. Ce sont plutôt les conservateurs qui devraient sortir vainqueurs le 23 février prochain, et les radicaux, l'AFD à l'extrême droite, et les populistes de BSW à gauche. Et puis il y a aussi les écologistes. En Allemagne, le Parti Vert tenait tout récemment son congrès national et il compte sur les nouveaux adhérents pour faire mentir les sondages, Delphine Nerbollier.
Alles wunderbar, komm einfach rein, setz dich dazu.
La permanence des Verts allemands dans le quartier de Schöneberg-Tempelhof se remplit petit à petit en ces débuts de soirée. Autour de la table, six Berlinois et Berlinoises viennent faire connaissance avec leur nouveau parti. Âgés entre 20 et 60 ans, tous veulent s'engager chez les écologistes. Une tasse de thé à la main, Julia, 32 ans, explique sa motivation principale, réagir à la montée de l'extrême droite.
J'ai été assesseur lors des élections communales. J'ai vu les électeurs toute la journée. Ils semblaient tout à fait normaux. Et puis nous avons ouvert les bulletins de vote. Et là, je vois des bulletins AFD, AFD, AFD. Et ça m'a effrayé. Dans ma bulle, je ne connais personne qui sympathise avec l'extrême droite. J'ai donc commencé à me dire qu'il fallait agir plutôt que de parler de ce qu'il faudrait faire. Je suis donc ici pour voir ce que je peux faire.
Julia n'est pas la seule à vouloir s'engager chez les Verts. Cette section du quartier de Schöneberg-Tempelhof vient de dépasser les 1500 membres, une tendance en hausse qui se retrouve dans les autres sections du pays. En cause, les révélations en janvier de plans de déportation de millions de personnes aux origines étrangères par le parti d'extrême droite AFD. À cela se sont ajoutés les scores très élevés de ce parti aux européennes et dans trois régions de l'est du pays. Plus de membres pour les Verts, cela peut surprendre, car dans les urnes, c'est plutôt la débandade. Et dans les sondages, ils ne sont crédités que de 10% d'intention de vote au niveau national. Leur participation au gouvernement depuis 3 ans est très critiquée. Ils sont devenus la cible privilégiée de la droite. Et cerise sur le gâteau, la cause climatique a perdu de son intensité dans les débats. Hannah Steinmeier le sait bien, elle siège au Bundestag depuis 3 ans.
Le monde a changé de manière dramatique. Il y a la guerre en Europe, la situation économique est devenue plus difficile et ça se reflète dans les sondages sur les Verts. En temps de crise, les gens se concentrent sur des choses de très court terme au lieu de penser aux solutions sur la durée comme la protection du climat. Et en même temps, nous voyons ce qui se passe en Espagne avec plus de 200 morts dans les terribles inondations. Il faut protéger le climat. Donc on ne s'inquiète pas trop, on a besoin de nous et nous allons tout faire pour être plus visible.
Être plus visible, c'est plus que jamais indispensable alors que l'Allemagne s'apprête à retourner aux urnes plus tôt que prévu, depuis que le gouvernement tripartite d'Olaf Scholz a implosé la semaine dernière. Ce week-end, les Verts allemands vont désigner leur tête de liste pour les législatives. Ce sera certainement Robert Habeck, l'actuel ministre de l'économie. Katharina Hild est membre des Verts à Berlin depuis 2007 et elle a confiance dans la future tête de liste de son parti.
Spécialement le rôle de Robert Habeck s'est perçu positivement parce qu'il a vraiment changé le tempo de comment on change en termes énergétiques. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de cela dans les médias, dans la rue, mais les gens qui s'intéressent pour la politique progressive pour le climat, oui, ils savent et ils veulent faire plus.
Comme l'ensemble des partis politiques, les Verts sont désormais en campagne électorale. Le thème de l'environnement regagnera-t-il en importance, comme le souhaitent les militants, alors que la plupart des formations ne parlent que de relance économique, de lutte contre l'immigration et d'affaiblir le Green Deal européen? Réponse dans les prochaines semaines.
Reportage de Delphine Nerbollier. Et à l'occasion de ce congrès des Verts en Allemagne, RFI s'interroge dans le débat du jour. Les partis écologistes sont-ils à la hauteur des enjeux climatiques? Rendez-vous ce soir à 17h30, temps universel. Enjeu aussi En ce moment, au cœur de la COP29, au cœur de discussions politiques dans plusieurs pays européens pour mieux anticiper les catastrophes naturelles, comme par exemple les terribles inondations qui ont eu lieu il y a 2 semaines en Espagne, la question se pose aussi sur l'île italienne de Sicile. C'est la région du pays la plus touchée par 2 conséquences du dérèglement climatique, la sécheresse et les incendies. Certains sont vraiment immenses et détruisent des pans entiers de forêt à une vitesse vertigineuse. Alors des associations essaient de trouver des solutions, d'anticiper et de réparer les dégâts. Reportage auprès de l'association Fenice Verde de notre correspondante Cécile Debarge.
Deviens un jardinier de la nature. C'est le slogan de l'association Fenice Verde qui propose pour la toute première fois, tous les week-ends de novembre, des ateliers de récolte et de conservation de graines autochtones dans les montagnes qui entourent Palerme. C'est le projet Gin Extra que détaille le président de Fenice Verde, Emiliano Farinella.
On va sur le terrain, on ramasse les graines, on les certifie conformes, on édite un registre pour assurer leur traçabilité, ensuite on fait grandir les plantes chez des pépiniéristes et enfin on les plante dans les zones qui ont été touchées par les incendies.
Lors de leur promenade du week-end, les bénévoles de l'association récoltent donc uniquement des graines d'espèces locales les plus résistantes aux flammes des incendies. Elles servent à créer une banque de plasma germinatif pour faire pousser des bébés plantes et les réintroduire sur les terrains brûlés par les incendies après plusieurs années de jachère. Emiliano Farinella.
Avec ces bébés plantes, l'idée c'est de sélectionner des espèces locales pour préserver un génome compatible avec celui des plantes détruites.
Ces plantes détruites, adaptées au climat de plus en plus chaud et de moins en moins pluvieux de la Sicile, sont aussi les meilleurs atouts pour contrer un autre effet du changement climatique dans la région.
Il faut qu'on ait une herbe capable de prévenir la désertification de la zone. L'idée, c'est de réunir toutes les conditions nécessaires pour permettre une restauration naturelle de l'écosystème.
Environ 70% de la Sicile est exposée au risque de désertification. Cet été, la région a vécu un épisode de sécheresse sans précédent. Or, sécheresse et incendies sont liés.
Le problème, c'est que la végétation est de plus en plus sèche à l'arrivée de l'été. Et le plus grave, c'est la sécheresse en automne et en hiver, qui fait qu'il ne pleut pas au moment où, justement, il devrait pleuvoir.
Davide Borgia est membre de l'association de protection de l'environnement Legambiente à Messine, de l'autre côté de l'île.
La part de flore sèche est de plus en plus élevée, donc petit à petit, même la végétation d'altitude devient plus vulnérable au feu, alors que jusqu'ici, elle était plutôt épargnée.
Mais l'espoir est permis et les incendies ne sont pas une fatalité, même si cela demande des décennies de patience. Au détour d'un virage, le soleil peine à percer sous les feuillages denses. La voiture s'enfonce dans un sous-bois. Davide Borgia s'arrête au bord de la route. Tout autour, des chênes majestueux, l'air est frais, les feuilles humides. C'est un projet de reboisement lancé 20 ans plus tôt et miraculeusement rescapé des flammes.
Pour un botaniste, pour quelqu'un qui aime la nature, ça réchauffe le cœur, parce que c'est la promesse de ce qu'on pourrait avoir à terme. C'est très beau, c'est passionnant à étudier. Il y a un peu moins d'herbe sèche qu'ailleurs, c'est plus frais, on sent qu'il y a de l'eau. Même s'il y avait un incendie, il aurait beaucoup de mal à se propager rapidement.
La Sicile compte encore près de 500 000 hectares de forêt, soit près de 15% de son territoire. C'est le taux le plus bas d'Italie, juste après les Pouilles.
Reportage de Cécile Debarge à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10, temps universel.
RFI, l'Europe à midi.
Si vous regardez parfois les sites de mode, vous vous en êtes peut-être rendu compte, les grandes marques sont très très loin de la tendance body positive qui émerge parfois sur les réseaux sociaux. Alors il y avait bien eu quelques tentatives rares ces dernières années, mais aujourd'hui sur les podiums, plus rien, on ne voit pas de forme, ni fesses, ni hanches, ni seins. Les mannequins qui défilent sont filiformes et cette maigreur systématique inquiète la directrice du magazine Vogue au Royaume-Uni. Elle l'a fait savoir cette semaine dans une interview à Londres, Emeline Vin.
La maigreur redevient tendance, s'inquiète la directrice de l'édition britannique du magazine de mode Vogue. Après avoir assisté aux différentes Fashion Week de la saison dernière, Chouma Nahadi indique ne pas avoir vu assez de diversité dans les corps représentés et des mannequins particulièrement maigres sur les podiums. Même si la mode britannique reste associée à la brindille Kate Moss, qui avec sa silhouette filiforme a établi le standard de l'extrême minceur au début des années 2000, depuis plusieurs saisons, les marques avaient fourni des efforts pour présenter des mannequins aux tailles variées. Alors comment expliquer ce retour en arrière? Pour Choumana Hadi, l'un des coupables, c'est l'Ozempic, ce médicament contre le diabète utilisé comme coupe-faim. La marque Namilia avait d'ailleurs suscité la polémique lors de la Fashion Week de Berlin en juillet en présentant un t-shirt floqué « I love Ozempic ». En 2009 déjà, le Vogue britannique demandait aux couturiers d'envoyer des échantillons dans d'autres tailles que du 32 afin de pouvoir diversifier les morphologies de ces mannequins. Un appel renouvelé aujourd'hui par Choumana Hadi qui estime que la presse ne peut pas révolutionner à elle seule les standards de beauté. Emeline Van Londres, RFI.
À Londres, il est 11h50.
RFI Midi. Un monde de tech.
Avec Aram Beng pour parler d'une exposition un peu particulière, la première du musée des prisons de l'État islamique en Irak et en Syrie. Elle se tient toute la semaine au siège de l'UNESCO à Paris. Et donc, elle a une spécificité, cette exposition « Trois murs ».
Oui Anne, il s'agit en fait d'une exposition virtuelle sur la vieille ville de Mossoul en Irak. Elle a nécessité plusieurs années de travail, de documentation et de collecte de preuves sur les exactions et les destructions menées par les djihadistes de Daesh quand ils ont pris le contrôle de la ville en 2014. Cette occupation de l'État islamique et le conflit qui s'en est suivi ont entraîné la destruction de nombreux sites emblématiques. L'exposition reconstitue donc avec l'aide d'images 3D l'architecture de Mossoul. En mettant l'accent sur trois bâtiments clés de la ville, de la vieille ville, on peut y voir en immersion la mosquée Al-Nouri, la maison Meydan et l'église syriaque, trois monuments qui témoignent de la diversité ethnique et religieuse de Mossoul et qui ont été transformés en prison par l'organisation État islamique.
Et comment s'est passé le travail, la reconstitution?
Eh bien, c'est un travail de longue haleine entamé dès 2017 quand les djihadistes sont expulsés progressivement du pays. Younes Kaïs est responsable de l'IPM pour l'Irak. Il coordonne sur place le travail de documentation en images et de collecte d'informations sur ce qui s'est passé dans ces prisons.
Ça a été un travail très difficile et c'était très compliqué aussi pour les habitants d'évoquer cette période marquée par les horreurs de l'État islamique. C'est une période en fait qu'ils veulent oublier, mais il était important aussi pour eux de témoigner. Le but, c'est raconter vraiment l'histoire de ce pays pour qu'elle ne se répète pas.
L'un des objectifs Aram, c'est de documenter les destructions, de montrer en fait au monde entier l'ampleur des dégâts.
Oui, et qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé à Mossoul. Une visite en 3D permet de voir les bâtiments avant et après le passage des djihadistes. Et ce travail de mémoire, Anne, a été possible grâce à la technologie et l'engagement des bénévoles comme Zayn Hajja, l'architecte irakienne qui a développé les animations 3D pour reconstituer les bâtiments. Elle explique le processus de reconstitution d'une maison familiale traditionnelle transformée en prison.
On a procédé en trois phases. D'abord en prenant des photographies 3D des bâtiments et des prises de vue aériennes, ensuite en exploitant des documents trouvés sur place. Et tout ceci, combiné aux nombreux témoignages de prisonniers, de survivants, nous a permis de reconstituer virtuellement le bâtiment tel qu'il était avant l'arrivée des djihadistes et tel qu'il est aujourd'hui.
Alors Aram, en plus des bâtiments, le travail d'enquête porte aussi sur le sort des habitants de Mossoul qui ont disparu.
Tout à fait. Les équipes de l'IPM ont effectué un travail d'enquête minutieux avec l'aide de technologies, avec l'aide de témoignages qu'ils ont pu recueillir des anciens prisonniers de l'État islamique. En se rendant dans les sites transformés en prison par les djihadistes, les membres de l'IPM ont aussi relevé plusieurs inscriptions sur les murs qui les ont aidés à en savoir plus sur les milliers de personnes disparues. Le but est de rassembler le maximum de preuves et de témoignages sur les violations des droits humains pour qu'elles puissent être utilisées un jour devant les tribunaux. Anne, il faut dire que l'exposition Trois Murs se termine aujourd'hui au siège de l'UNESCO à Paris, mais elle est encore accessible en ligne sur le site de l'ISIS Prison Museum, l'IPM.
Merci Aram Beng. Nous recevons maintenant une auteure, l'écrivaine Marilyn Desbioles, pour parler de son nouveau roman, L'Agrafe. L'Agrafe, c'est l'histoire d'une jeune femme dont la vie va être chamboulée par un chien qui n'aime pas les Arabes. C'est comme ça qu'elle l'écrit. Écoutez Marilyn Desbioles au micro de Muriel Malouf.
Bonjour Marilyn Desbioles.
Bonjour.
L'Agrafe, votre dernier roman, a pour héroïne une jeune femme, Emma Fulconi, qui découvre, suite à un accident, ses origines harkis. Comment est née cette histoire ?
Plusieurs choses l'ont fait naître. D'abord, mes livres précédents, puisque c'est quand même des motifs récurrents, la guerre d'Algérie, la course, puisque cette Emma Fulconis courait avant son accident dans les collines. Et puis aussi un fait divers qui a un peu défrayé la chronique voici 2 ans. Un étranger au village de l'Escarène où se situe dans l'arrière-pays niçois l'histoire a été lynché un soir d'octobre juste parce qu'il était étranger avec des chiens, ce qui est important pour mon histoire en tout cas. Et ce qui a été catastrophique pour ce pauvre homme qui est mort de ses blessures quelques jours après.
Le racisme d'ailleurs traverse l'histoire de ce roman. Et il y a cette phrase qui jaillit « Mon chien n'aime pas les Arabes ». Le chien qui a mordu la jeune Emma et va bouleverser sa vie. Et pourtant, Emma n'a pas de ressentiment. Elle est très lumineuse. C'est un personnage qui est au-delà, justement.
Au-delà, c'est bien. J'aime bien que vous disiez ça. En effet, Emma Fulconis, elle va pas s'arrêter sur cette phrase. Au contraire, cette phrase, finalement, cette phrase abominable, au fond, c'est la première phrase du récit qui va lui permettre de reconnaître d'où elle vient et aussi qui va lui permettre de, non pas de courir comme autrefois, comme avant, mais d'inventer quelque chose d'autre.
Parce que Emma Fulconis aimait courir dans cet arrière-pays niçois et tout d'un coup son corps est entravé, son mouvement est arrêté. Et pour qu'il reprenne différemment, je vous cite, un tremblement d'abord, une oscillation, presque une danse immobile. Et l'écriture aussi est un mouvement pour vous ?
Ah oui, oui, justement, ce que trouve Emma Fulconis, je ne le savais pas au début du livre. C'est un cadeau que le livre m'a fait, en vérité. Donc c'est vraiment un mouvement vers ce qu'elle trouve, non pas pour courir comme avant, mais pour exulter de la même manière dans son corps.
Vous habitez vous-même dans cet arrière-pays niçois. Vous vous inspirez beaucoup de votre entourage ?
Oui, moi j'aime bien, j'ai pas de goût pour l'exotisme, j'aime bien regarder autour de moi. Il y a aussi de l'enquête dans ce livre. Je suis allée voir précisément les harkis. Puisque dans ce paysage de l'Escarène, il y a un hameau de forestage, il y avait, puisqu'il vient d'être rasé. Et là, justement, son inscription dans le paysage dit beaucoup de choses. Il était à l'écart du village, et non pas dans le paysage que je viens de vous décrire, mais dans un vallon. Et quand on passait sur la route, on pouvait ne pas le voir.
Donc caché.
Caché, bien sûr.
Parce que souvent, la culture harki est cachée de part et d'autre, d'ailleurs. Du côté de la France ou de l'Algérie.
Absolument. Mais il faut dire que depuis quelque temps, la littérature, il y a eu des hommages rendus, c'est vrai. Mais la littérature a pris en charge cette histoire. Et je pense que ça, c'est important.
Merci Marilyn Debiol.
Merci beaucoup.
L'Agrafe, donc votre dernier roman, est publié aux éditions Sabine Vespizer.
Goma, 98 FM.
L'actualité africaine, dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera avec vous Nicolas Sûr. Bonjour.
Bonjour Anne.
Et vous nous parlerez aujourd'hui ?
Du grand rendez-vous culturel de la région des Grands Lacs, le Festival Amani, il est annulé. Cela fait suite à une demande du maire de Goma, où il a lieu depuis 10 ans chaque année. Et puis la journée mondiale du diabète, une maladie chronique grave, diagnostiquée chez 24 millions d'adultes en Afrique, selon l'ONU. Elle se traite avec de l'insuline, mais l'accès à cette hormone reste problématique sur le continent, et notamment parce que les laboratoires qui la produisent sont en situation de quasi-monopole.
À tout à l'heure, on vous retrouve à 12h30 temps universel, et avant cela, à midi, dans 2 minutes, il y aura un nouveau journal. D'ici là, un peu de musique. La musique de Zao de Sagazan à écouter en ce moment dans la playlist RFI. Voici le titre « Au travers ».
Père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers. Une histoire de travers. Thank you. prend des choses controverses, tes travers, en vers et puis en prose, découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose en comprenant tes travers, viendra la métamorphose.